21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous. Yannick Petit au micro à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour ce soir vous présenter 4 dictionnaires amoureux de cette magnifique collection des dictionnaires amoureux créés aux éditions Plon. Au programme ce soir, le dictionnaire amoureux de Tintin d'Albert Algou, le dictionnaire amoureux de San Antonio de Éric Bouillet et le dictionnaire amoureux de la montagne de Frédéric Thirier. Alors je vais commencer ce numéro de Wagon Livre avec le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg. C'est un dictionnaire amoureux qui est signé Vladimir Fedorovski, qui est actuellement l'écrivain d'origine russe le plus publié en France. Durant d'ailleurs les grands bouleversements à l'Est, Vladimir Fedorovski fut diplomate, porte-parole de la perestroïka et témoin de cette époque charnière. Alors il est, je vous l'ai dit, effectivement très connu. Ses livres sont traduits dans 28 pays et sont devenus des best-sellers internationaux, parmi lesquels le roman du Kremlin. Il a été éditeur, directeur de la collection Les Romans des Lieux Magiques. Nous l'avions eu d'ailleurs devant notre micro il y a, je crois maintenant, 3 ans pour le roman des Tsars. Et effectivement, en cette année 2017, où nous allons revenir sur le centenaire de la Révolution russe, il n'est pas inintéressant de parler de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est la ville fondée par Pierre le Grand, c'est la capitale de l'Empire des Tsars. Alors bien sûr, cette série des dictionnaires amoureux permettent à leurs auteurs d'aborder de manière subjective chacun des thèmes dont ils traitent. Il faut savoir simplement que Saint-Pétersbourg est au cœur de la civilisation russe et l'âge d'or de Saint-Pétersbourg, c'est le début du 19e siècle, c'est-à-dire que ça correspond à l'époque de Pouchkine. Saint-Pétersbourg, c'est aussi la capitale de l'Empire des Tsars, par conséquent il y a un très grand nombre de portraits de différents tsars, par exemple Alexandre Ier, qui a régné de 1801 à 1825, qui est le petit-fils de Catherine II, qui a été élevé, lui, dans une atmosphère de culture française. Alors, Alexandre Ier a abdiqué en 1825, il a d'ailleurs disparu. Il s'est réfugié, pense-t-on, pour devenir un ermite sous le nom de Fiodor Kouzmitch. En tout cas, il disparaît en 1825. Est-il mort de la fièvre? Est-il mort ermite? On n'en sait en tout cas pas grand-chose. Il a ensuite eu pour successeur Alexandre II. Alors Alexandre II, ce fut un tsar réformateur, progressiste, qui a organisé un très grand nombre de réformes dans cette Russie tsariste de l'époque. Il abolit notamment le servage en 1861. Et c'est Alexandre II qui, d'ailleurs, va vendre l'Alaska aux États-Unis. Il a mené aussi une guerre assez importante contre la Turquie. Et c'est l'époque où la Russie tsariste connaît un très grand nombre d'attentats. D'ailleurs, Alexandre II sera victime de plusieurs attentats dont il échappera. Mais c'est l'époque, en tout cas, où le terrorisme a une importance considérable. Et Alexandre II sera finalement assassiné. Sa maîtresse, Catherine Dolgorovki, devra d'ailleurs quitter Saint-Pétersbourg et mourra, elle, des années plus tard en exil à Nice. Il y a d'ailleurs des films qui ont été faits sur la maîtresse d'Alexandre II. C'est le fameux film Katia de Maurice Tourneur en 1938 ou encore la version américaine de Robert Siodmak en 1959. Bien sûr, quand on évoque Saint-Pétersbourg, on évoque une ville à l'architecture absolument remarquable. La ville a été créée en 1703. Au départ, c'était qu'un ensemble de misérables huttes de boue, une ville fondée donc par Pierre le Grand. Et puis, au XVIIIe siècle, on a construit la forteresse Pierre et Paul, la cathédrale Pierre et Paul, le palais d'été, bien sûr. Et puis, n'oublions pas que Saint-Pétersbourg, c'est la ville aux trois perspectives. Alors, il y a le palais d'été, il y a le palais d'hiver qui abrite aujourd'hui le célébrissime musée de l'Ermitage, qui est peut-être un des plus forts symboles de Saint-Pétersbourg. Actuellement, c'est un musée, mais l'Ermitage a été fondé par l'impératrice Catherine II, qui l'a créé en 1764, avec d'ailleurs les acquisitions des bibliothèques de Voltaire et de Diderot. Aujourd'hui, l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, c'est cinq bâtiments reliés entre eux, c'est 3 millions d'objets d'art dont seulement 5% sont exposés. C'est vraiment un palais d'une splendeur baroque absolument exceptionnelle. Et d'ailleurs, ce palais d'hiver est essentiellement habité par des chats. Ça, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, Catherine II disait: la race humaine se distingue en deux catégories d'hommes et de femmes, ceux qui aiment les chats et les autres. Alors, les chats restent en tout cas l'âme du palais d'hiver. Saint-Pétersbourg, le nom de Saint-Pétersbourg est un nom allemand. La ville s'appellera Pétrograd de 1914 à 1924. Elle s'est appelée ensuite Léningrad à la mort de Lénine. La ville devient Léningrad et elle a retrouvé son nom de Saint-Pétersbourg depuis les années 1990. En tout cas, c'est la plus grande ville de Russie par sa superficie, c'est la deuxième ville la plus peuplée après Moscou. Mais si Saint-Pétersbourg a été la capitale des tsars de Russie, la ville perd son statut de capitale en 1920 puisque le régime communiste va choisir Moscou comme capitale, pardon, de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Mais je disais que c'était important de s'intéresser à Saint-Pétersbourg en cette année 2017, parce qu'en 1917, il y a un siècle, Saint-Pétersbourg a été le berceau de la révolution russe. Bien sûr, après, il y a ce qu'on appelle l'apocalypse de Saint-Pétersbourg, après la révolution d'octobre 1917. Et puis, n'oublions pas que cette ville, qui s'est appelée Leningrad à partir de 1924, va connaître pendant la Seconde Guerre mondiale un siège absolument épouvantable, un siège mené par l'armée allemande qui va encercler Leningrad durant 872 jours, et c'est un siège qui va faire plus de 900 000 victimes, un siège affreux, affreux. En tout cas, c'est en 1990 que la ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, dans ce dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, on revisite les richesses architecturales, mais aussi artistiques, poétiques, littéraires de ce Saint-Pétersbourg. Je ne peux pas, bien évidemment, vous rendre compte de tous les articles que l'on trouve dans ce dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg sous la plume de Vladimir Fedorovski, mais par exemple, c'est très intéressant aussi de se pencher sur Dostoïevski. L'écrivain Dostoïevski, qui est né, lui, à Saint-Pétersbourg en 1821, a beaucoup rendu compte dans ses œuvres romanesques de la ville. Ses premières œuvres, d'ailleurs, décrivent les rues, les canaux de la périphérie de Saint-Pétersbourg. Alors, Dostoïevski, on le sait, a côtoyé d'un petit peu trop près des cercles d'étudiants progressistes, voire socialistes, ce qui d'ailleurs l'a amené en 1850 à se retrouver prisonnier au bagne de Russie. Il en a ramené d'ailleurs un livre terrible intitulé Souvenirs de la maison des morts. Mais si on parle de Dostoïevski, évidemment, il faut mentionner Crime et Châtiment avec ce célèbre personnage de Raskolnikov, un roman qui est écrit et construit comme un roman policier. Rappelons Le Joueur, L'Idiot, Les Possédés ou Les Frères Karamazov. Si on parle de Saint-Pétersbourg littéraire, il faut aussi parler d'Alexandre Pouchkine. Alors, Pouchkine, il a eu, disons, l'audace, dans certains de ses écrits, d'attaquer le tsar. Donc, il va connaître une certaine disgrâce et devra très vite quitter Saint-Pétersbourg. Il a d'ailleurs seulement 21 ans. Et puis, c'est Nicolas Ier, le tsar Nicolas Ier, qui va associer Pouchkine à son effort de renaissance nationale. Et puis, Pouchkine, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il appartient à cette catégorie d'hommes qui se battent en duel. La femme de Pouchkine va tomber sous le charme d'un officier alsacien, le baron Dantès. Et le 27 janvier 1837, Pouchkine et le baron Dantès vont se battre en duel pour l'honneur de cette femme. Pushkin sera blessé d'une balle de pistolet dans le ventre et il va mourir 2 jours plus tard chez lui. Alors, on a parlé de littérature, je ne peux pas évoquer tous les personnages qui se trouvent dans ce dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, mais il y a une figure sur laquelle on pourrait s'arrêter et lire en tout cas sa biographie et ce que Fédorovski en écrit, c'est Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine est né à Leningrad en 1952. Je m'arrête pas trop sur Poutine, mais je trouve que l'article est tout à fait intéressant. Ce qui est absolument savoureux, c'est le chapitre qui est consacré à la gastronomie de Saint-Pétersbourg, où effectivement il est question du café Pouchkine qui se trouve sur la perspective Nevski. Les zakouskis, est-ce que vous savez ce que sont les zakouskis? Ce sont tout simplement des crevettes cuites avec des champignons. Mais il y a aussi les pirojki. Alors les pirojki, ce sont des pâtés fourrés de légumes. Et bien sûr, il y a le cidre russe, le kvass, il y a les liqueurs de fruits qu'on appelle les rastoïka. Et bien sûr, il y a la vodka dont parle Fedorovski. Et il y en a d'ailleurs de plusieurs sortes. Je vous lis juste le petit passage consacré à la vodka. Quant à la vodka, eau-de-vie de grain, il y en a de plusieurs sortes. Depuis la vodka blanche courante jusqu'à la vodka au poivre, en passant par une vodka plus savoureuse, la Zubrovka, ainsi nommée parce que l'herbe qui lui donnait son parfum était très recherchée par un animal en voie de disparition, le zoubre, genre d'auroch ou de bison. Debout, on se faisait servir et on accompagnait chaque bouchée d'une rasade de vodka. Ne buvez jamais de vodka sans manger quelque chose par-dessus, disent toujours les pétersbourgeois. Ils goûtent souvent, successivement, plusieurs vodkas pour les comparer. Mais bien qu'on suive leurs conseils, les yeux se brouillent, à chaque lampée d'alcool, la gorge s'enflamme, un trait de feu perce les entrailles. Vite, on tend la main vers les zakouskis pour éteindre l'incendie avec un peu de caviar. Tout est effectivement magnifique. Donc ce dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg, qui est d'abord un livre d'évasion, c'est les grands tsars, c'est les artistes, les égéries passionnées qui nous accompagnent pour nous permettre en fait de percer les mystères de cette ville insolite. C'est un ouvrage qui évoque non seulement l'architecture de la ville, mais son histoire unique, l'âme russe avec ses contrastes, ses élans et ses tragédies sans nom. C'est donc le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg sous la plume de Vladimir Fedorovski. On le trouve bien sûr en librairie aux éditions Plon. Et puis nous marquons, si vous le voulez bien, un premier temps de pause musicale. C'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Eyes without a face. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Merci de nous être fidèles, merci d'être en notre compagnie ce soir pour un rendez-vous littéraire entièrement consacré à la prestigieuse collection des Dictionnaires amoureux aux éditions Plomb. Arrêtons-nous maintenant et prenons de la hauteur avec le Dictionnaire amoureux de la montagne signé Frédéric Thirier. Frédéric Thirier est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est un ancien maître des requêtes au Conseil d'État. Il a présidé la Ligue nationale de football pendant 14 ans. La montagne est son autre passion. Il est alpiniste, skieur, randonneur depuis ses plus jeunes années. Il a notamment participé à l'expédition Hidden Peak 84 avec Pierre Mazot et il a conduit avec Marc Battard l'expédition Fraternité avec 11 jeunes de banlieue au sommet du Kalapatar près de l'Everest. Ce dictionnaire amoureux de la montagne, c'est une déclaration d'amour aux montagnes. C'est aussi un hommage passionné aux hommes et aux femmes qui y ont laissé leurs empreintes et y ont consacré toute leur âme. Bien sûr, ce dictionnaire amoureux de la montagne permet d'asseoir, de réviser, de fortifier ses connaissances en altitude. Le Kilimandjaro, 5985 mètres. Pensons à l'Himalaya. Pensons aussi à la Aconcagua, 6962 mètres, qui est le point culminant du continent sud-américain, le sommet le plus élevé de la Terre, hors Himalaya, qui est exposé à des vents de 200 km/h. La Annapurna, 8091 mètres. La Annapurna, conquis par l'accordé héroïque Herzog Lachenal le 3 juin 1950. L'Everest, 8848 mètres. 8848 mètres de rêve, d'exploit et de folie, la plus haute montagne du monde, découverte par les Anglais en 1847, mais qui est aussi le lieu d'accidents de plus en plus meurtriers, comme par exemple cet accident d'avril 2014 sur l'Everest qui a fait 16 morts. Alors, bien sûr, c'est l'occasion de consolider ses connaissances en altitude. La Jungfrau, au cœur des Alpes bernoises, au cœur du massif donc des Alpes, notre prestigieux massif des Alpes. La Jungfrau, 4158 mètres d'altitude. Pensons aussi au K2, 8616 mètres. Pensons aux Dolomites, les montagnes En Italie, la France est tout de même composée de 140 000 km² de montagnes, hein, il y a 6 000 km de côte. Mais la France, ce sont les Alpes, c'est le Jura, c'est les Pyrénées, c'est les Ardennes, ce sont les Vosges, la Corse et le Massif central. La Corse, c'est une montagne dans la mer. Les Alpes, ne l'oublions pas, sont à cheval sur 8 pays. Alors, ce dictionnaire amoureux de la montagne, bien sûr, rappelle que la montagne, c'est le lieu des exploits, c'est aussi malheureusement le lieu de drames et d'accidents. Les accidents, ils sont nombreux. Par exemple, dès le milieu du 19e siècle, en 1865, il y a un terrible accident au Cervin. Le Cervin, 4478 mètres, c'est la reine des Alpes, c'est bien sûr un sommet qui est attaché à la ville de Zermatt, dans le Haut-Valais suisse. Il y avait eu effectivement un très grand nombre de morts. C'était l'accident du Cervin en 1865. Et puis il y a cette terrible affaire. Alors c'est dans les Alpes cette fois-ci. C'est en 1966. Il y a l'affaire Vincent Don Henri. Alors l'affaire Vincent Don Henri, c'est une affaire qui n'est pas banale parce que les mots ont leur importance. Ça a été une tragédie, ça a été une catastrophe. En effet, ce qui aurait pu relever de l'incident assez banal, au départ, deux alpinistes coincés par le mauvais temps lors d'une hivernale tournent au drame. La météo bloque les secours pendant 10 longs jours. Ça devient une catastrophe parce que l'hélicoptère de secours va s'écraser près des victimes et une tragédie parce que les deux jeunes vont subir une agonie interminable avant de mourir de froid dans la carcasse de l'hélicoptère. Et puis, ça deviendra aussi une affaire en 66. Une affaire d'État, aurait-on pu les sauver? Qui est responsable? En tout cas, quelque chose malheureux et bon, puisque l'affaire conduira à une réorganisation complète des secours en France. Donc, des accidents, il y en a, et pas que dans les Alpes. Hein, les Alpes, qui est 3 fois moins vaste que l'Himalaya, 15 fois moins vaste que la cordillère des Andes. Ce qui m'a beaucoup surpris, ce sont les citations que j'ai pu relever dans ce dictionnaire amoureux de la montagne. Par exemple, sous la plume de Gaston Rébuffat, l'alpiniste est un homme qui conduit ses pas là où un jour ses yeux ont regardé. Lionel Terray écrit: sport stupide qui consiste à grimper les rochers avec les mains, les pieds et les dents. Il y a ce proverbe chinois formidable: quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper. Sylvain Tesson, le romancier, écrit: l'alpinisme est une manière de régler le problème de l'absurdité de la vie en lui opposant un comportement d'une absurdité supérieure. Nietzsche a écrit: une heure d'ascension dans les montagnes fait d'un gredin et d'un saint deux créatures à peu près semblables. La fatigue est le plus court chemin vers l'égalité, vers la fraternité, et durant le sommeil s'ajoute la liberté. Et Jean Vernet de dire: l'alpinisme n'est pas un sport, c'est une religion. Il y a un très grand nombre d'écrivains qui sont évoqués dans ce dictionnaire amoureux de la montagne. Dino Buzzati, qui est mort en 72, vous savez, c'est cet auteur célèbre du désert des Tartares, qui était un amoureux fou de la montagne, les Dolomites. Il y a aussi un article passionnant sur Eri De Luca. Alors, Eri De Luca, lui, il est toujours en vie, il est né en 1950. Et De Luca, on en a parlé en 2015, suite à une affaire de justice retentissante qui a été particulièrement médiatisée. Eri De Luca, c'est un écrivain napolitain, militant d'extrême gauche, devenu altermondialiste, poète et alpiniste, qui a été poursuivi pour avoir, dans un discours public, incité au sabotage de la ligne TGV Lyon-Turin. Alors, il a été, c'est vrai, totalement relaxé, c'était le 19 octobre 2015, mais là encore, c'était pour protéger la montagne. J'ai beaucoup apprécié, dans ce dictionnaire amoureux de la montagne, tous les articles qui nous font prendre conscience que le matériel, les vêtements, les équipements des alpinistes ont considérablement évolué. Par exemple, la conquête du Mont Blanc s'est faite sans cordes. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, les premiers grimpeurs jugeaient la corde extrêmement dangereuse. Ce qui est formidable, c'est que l'histoire de la montagne, c'est une histoire de pied. Au départ, les chaussures de montagne étaient cloutées, ferrées. Ensuite, on s'est livré à l'escalade sportive avant la guerre de 14 en espadrilles. Mais le premier vrai chausson d'escalade est apparu en 1935. Ensuite sont apparus les crampons, et puis il y a une troisième grande révolution, c'est les chaussures à coque plastique. Dans la montagne, il y a aussi beaucoup d'animaux. Il y a les choucas, ce qu'on appelle le chocard à bec jaune. Il y a la marmotte, qui est vraiment l'animal célèbre et, j'allais dire, caricatural de la montagne. Il y a le chamois, qui est le seigneur des montagnes. On l'appelle l'isard dans les Pyrénées. Il peut grimper au-delà de 4000 mètres et il est capable d'avaler 1000 mètres de dénivelé en un quart d'heure. Chapeau quand même, le chamois. Ce dictionnaire amoureux de la montagne évoque bien sûr un très 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 grand nombre d'alpinistes. En France, on est très fier par exemple de Maurice Herzog. Maurice Herzog qui est mort en 2012, qui a atteint avec Louis Lachenal le sommet de l'Annapurna le 3 juin 1950. Cet Himalaya qui est la demeure des neiges et qui est tout de même j'allais dire une référence en termes d'alpinisme. L'Himalaya, c'est le royaume de la démesure. Plus grande et plus haute chaîne de montagnes du monde, 3 000 km de long qui s'étire entre l'Inde et le Pakistan, en passant par le Népal et le Tibet, 281 sommets de plus de 7 000 mètres sur 326 dans le monde, la totalité des 14 sommets de plus de 8 000 de la planète, mais aussi des dénivelés de 4 000 mètres, voire plus, entre le camp de base et le sommet, trois fois ce à quoi nous sommes habitués dans les Alpes. Bref, un autre monde. Il y a un très bel article aussi consacré au Jura avec un extrait d'un roman de Bernard Clavel. Bernard Clavel, romancier jurassien d'origine, c'est un extrait de L'Hiver qui est reproduit, très très beau texte sur la neige dans ce massif du Jura. La montagne, c'est aussi le lieu des contes et des légendes, c'est le royaume des superstitions. Il y a toujours des animaux fantastiques, hein. Il y a des serpents, mais il y a aussi des loups-garous, la bête du Gévaudan, le dahu, la fameuse chasse au dahu. Dans les Pyrénées, c'est l'ours qui domine. Il y a aussi des plantes, parfois magiques. Et puis, il y a le fameux Yéti des mythologies himalayennes et caucasiennes. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler du Yéti quand nous parlerons du dictionnaire amoureux de Tintin. En tout cas, je ne saurais trop vous recommander ce superbe et volumineux dictionnaire amoureux de la montagne, sous la plume de Frédéric Thirier. C'est aux éditions Plon. C'est un ouvrage paru en novembre 2016. Très bonne soirée sur Radion. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de notre émission. Place à la musique. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Place cette fois-ci au dictionnaire amoureux de Tintin, sous la plume de Albert Algout, toujours dans cette collection des éditions Plomb. Albert Algout est humoriste, écrivain et journaliste. Il a notamment écrit plusieurs ouvrages consacrés au monde d'Hergé et à ses personnages, dont Le Haddock illustré et Tintinolatrie, qui sont considérés comme des incontournables de la tintinologie. Le dictionnaire amoureux de Tintin, c'est déjà le rappel que l'auteur, l'inventeur du personnage de Tintin, Hergé, s'appelait Georges Remy et qu'il avait utilisé donc les premières lettres de son prénom G et le R de Remy qu'il avait mis dans l'ordre RG pour créer donc ce pseudonyme. Hergé est mort à l'âge de 76 ans, le 3 mars 1980. 83, il est le créateur de cet extraordinaire, sans doute mondialement connu personnage de Tintin. J'ai été intéressé par un article, l'article genre, théorie du genre, page 285-286, et je vous en donne carrément lecture. Dans l'affaire Tournesol, avisant un miroir brisé, Séraphin Lampion, qui vient de faire irruption à Moulinsart, lance Goguenard. Tiens, tiens! Vous vous êtes disputé avec madame ? D'un point de vue biographique, cette remarque est sans doute une allusion amère aux scènes de ménage qui éclataient sporadiquement depuis quelques années entre Hergé et sa femme Germaine dans leur vaste maison de Sérou-Mousty. Mais Séraphin Lampion, avec une malice perverse, pointe aussi l'absence de femme à Moulinsart et, partant, l'absence de femme dans les aventures de Tintin. À moins qu'il ne laisse entendre que Tintin serait une femme. Une hypothèse que j'ai caressée, si j'ose dire, à l'issue d'un dîner mémorable de l'Association des Amis de Hergé, encouragé dans mes divagations sur Tintin et la loi du genre par Jacques Langlois, tintinophile éminent, qui tout jeune eut la chance de correspondre avec Hergé et qui le rencontra. De Milou, dont je suis certain qu'il s'agit d'une femelle, nous en étions venus à nous interroger sur l'indétermination sexuelle de son maître. Et si Tintin était une jeune fille ? Une théorie que n'expliquait pas seulement l'excellent vin du Languedoc servi ce soir-là. En effet, les rares fois où Tintin se dénude, que ce soit pour prendre une douche administrée par la trompe d'un éléphant ou pour prendre un bain, il s'arrange systématiquement pour dissimuler sa poitrine. Après tout, c'est ce que fit Jeanne d'Arc, qui, dans des habits masculins, surpassa en vaillance et en héroïsme bien des garçons de son temps. Alors, Tintin, une jeune fille, Milou serait une femelle, ça, j'ai trouvé véritablement passionnant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes ne jouent pas un rôle très important dans les aventures de Tintin. La seule femme qui a un rôle de premier plan, c'est le rossignol milanais, c'est la fameuse Castafiore. Il y a un autre personnage absolument incontournable des bandes dessinées de Tintin, c'est le capitaine Haddock. Alors, il est question du peintre ostendais James Ensor, c'est page 229 dans ce dictionnaire amoureux, et il semblerait, selon Albert Algout, que Hergé se soit considérablement inspiré du peintre James Ensor. Je cite: le capitaine Haddock lui a emprunté certains traits physiques et certains traits de caractère. Leur barbe se ressemble et ils ont en commun un goût immodéré pour l'invective, sans oublier les origines semblables. Ensor était anglais par son père et flamand par sa mère. Ce que Jean-Baptiste Barognan, dans le dictionnaire amoureux de la Belgique, dit de James Ensor, qui fut aussi un prosateur à la verve étourdissante, pourrait s'appliquer à Haddock. Le plus étonnant, c'est James Ensor et son génie de l'injure et de l'invective, à telle enseigne que sous sa plume, les gros mots deviennent des merveilles de la langue. Alors, je vais vous citer quelques-unes des invectives de James Ensor. Chicanier turboté, cancre cagoulé, boulimique perclu du pays de Cézanne, barbouilleur mathématique de mauvais tonton, tontaine, tonton. Pilfacier sans revers, séquelle ratée aux mains mortes, arc-boutiste stalagmitaire, trianguliste asservi, anti-brosseur, retardataire jocondé, démolisseur à suçoir, mâche-brique, poussif possessif, flandrophiliseur intempestif, bec salé patibulaire. C'est intéressant, effectivement, de s'intéresser aux jurons du capitaine Haddock. Vous le savez, les albums de Tintin ont la réputation de viser un public qui va de 7 à 77 ans. Et d'ailleurs, Albert Algout nous explique que la formule de 7 à 77 ans n'évoque plus forcément le célèbre hebdomadaire. D'ailleurs, elle est passée dans le langage courant, et c'est vrai que le journal de Tintin s'adresse aux 7 à 77 ans. Hergé est mort à 76 ans, juste avant la date d'expiration du délai accordé au lecteur de Tintin. Albert Algout passe en revue un très grand nombre de réflexions politiques, sociologiques, concernant l'étude et l'analyse du personnage de Tintin. Tintin est-il musulman? Alors ça, c'est passionnant. C'est page 666 de ce dictionnaire amoureux. Je voudrais vous en lire juste un petit passage. Vous trouvez ça vraiment passionnant. On le sait, Tintin ne boit presque jamais d'alcool. Et c'est donc un imam, pour mon imam, pas l'ombre d'un doute, ce n'est pas tant par hygiène de vie que parce qu'il obéit à un des préceptes de l'islam que Tintin affiche une telle sobriété. Et de rappeler l'épisode fameux du crabe aux pinces d'or. Après le crash de leur hydravion, Tintin et Haddock errent dans le désert. En proie à des hallucinations dues autant à la soif qu'au délirium tremens, le capitaine tente de trucider Tintin. Tous deux s'évanouissent pour se réveiller dans le poste d'Afgar, où une patrouille de méharistes les a conduits. Attablés avec le lieutenant Delcourt, Tintin et Haddock se voient proposer l'apéro, apporté aussitôt par un Touareg nommé Ahmed. Tintin décline alors la proposition. Merci, lieutenant, je ne prends jamais d'alcool. À ce propos, mon imam, décidément féru de BD, ne manque pas de signaler une troublante coïncidence entre cette séquence du crabe aux pinces d'or et une autre tirée des Éthiopiques de Hugo Pratt. Dans un fortin perdu dans le désert, Corto Maltese est lui aussi attablé avec un capitaine. Corto propose de l'alcool à Kush, un guerrier béniamer, qui refuse. Tu sais que je ne bois pas les choses interdites par le prophète. Dans les albums, ce n'est jamais Tintin qui offense les musulmans. Dans Coq en stock avec Haddock, il libère les Africains retenus prisonniers dans les cales du Ramona et il veut les aider à se rendre à la Mecque. Seuls les Dupont, à plusieurs reprises, ont un comportement sacrilège. Dans Le crabe aux pinces d'or, bien que vêtus d'un burnous, ils se font expulser de la mosquée où ils sont entrés sans se déchausser. Dans Tintin au pays de l'or noir, Dupont, prétendant que les trois bédouins qui sont en train de faire leur prière tournée vers la Mecque sont un mirage, botte l'arrière-train d'un de ses croyants et un peu plus tard, endormi dans la Jeep qui poursuit sa route, le duo fait irruption à l'heure de la prière en défonçant le mur d'une des mosquées de Wadesda. Reste à savoir quand Tintin aurait pu se convertir à l'islam. Selon l'imam, ce fut lors de son escale à Port Saïd à la fin de l'année 1932. Il y a plein d'autres articles absolument passionnants. Exemple, Tintin est-il raciste? Tintin est-il de droite, comme l'avait prétendu Denis Tillinac? Et puis, concernant le selfie, tout le monde sait ce qu'est un selfie, eh bien, Tintin est l'inventeur du selfie. C'est ce que nous dit Albert Algout dans l'article Selfie. Je lis l'article. Tintin pratiqua le selfie bien avant que celui-ci devînt à la mode. Au tout début de Tintin au pays des soviets, le court texte d'introduction comporte ce nota bene. La direction du petit 20e certifie toutes ces photos rigoureusement authentiques, celles-ci ayant été prises par Tintin lui-même, aidé de son sympathique cabot Milou. Les cinq cases qui suivent ce texte représentent Tintin et Milou. Dans la mesure où le selfie, également appelé autophoto, est un autoportrait photographique partagé, Tintin, qui prend des photos de lui-même pour les faire partager avec d'autres personnes, est donc bien un pionnier du selfie, qu'on se le dise. Passionnant aussi sur l'expression « tonnerre de Brest », on apprend enfin l'origine. Très intéressant aussi le rapport entre le capitaine Haddock et Céline, car Hergé aurait été inspiré en grande partie par Louis-Ferdinand Céline en ce qui concerne les jurons du capitaine Haddock, puisque Céline aurait été influencé par Bagatelle pour un massacre, et il aurait aussi été influencé par un marin fort en gueule que l'on trouve dans l'île mystérieuse de Jules Verne, et ce marin s'appelle Pencroff. Des primates, il en est aussi beaucoup question dans le bestiaire RG1. Il y a le fameux Yeti dans Tintin au Tibet, on en a parlé aussi tout à l'heure par rapport au dictionnaire amoureux des montagnes. Et puis Albert Agout revient sur la plainte qui avait été déposée contre X et contre la société Moulinsart qui gère les aventures de Tintin. Une plainte en racisme déposée par un Congolais montrant que Tintin avait les attitudes racistes d'un blanc dans Tintin au Congo. Tout cela est dans le dictionnaire amoureux de Tintin de Albert Algout. C'est aux éditions Plomb. Très bonne soirée, place à la musique et on se retrouve avec le dernier dictionnaire amoureux dont il sera question ce soir. C'est le dictionnaire amoureux de San Antonio. À tout de suite.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous évoquons ce soir dans Wagon Livre la prestigieuse collection des dictionnaires amoureux aux éditions Plomb et je vais pour vous évoquer le tout dernier, vraisemblablement paru en librairie puisqu'il est sorti le 5 janvier dernier, c'est le dictionnaire amoureux de San Antonio sous la plume d'Éric Bouillet. Un petit mot concernant Éric Bouillet. Éric Bouillet est médecin, publicitaire, muséographe, enseignant et écrivain depuis 10 ans. Il a une véritable passion pour l'œuvre de San Antonio. Il est membre d'ailleurs de l'association des amis de San Antonio pour laquelle il rédige des articles dans la revue trimestrielle de cette association créée en 1997 avec l'accord de Frédéric Dard. Cette revue a pour titre « Le monde de San Antonio ». Alors c'est très intéressant de feuilleter ce dictionnaire amoureux de San Antonio. C'est un retour sur l'œuvre de Frédéric Dard. On considère 300 romans écrits sous le pseudo de San Antonio, mais aussi sous des tas d'autres pseudonymes, 300 romans au total, dont 183 aventures de San Antonio, des aventures traduites en 35 langues, des millions de lecteurs, à peu près 600 000 exemplaires de chaque San Antonio vendu 4 à 5 fois par an. Mentionnons aussi, de la part de Frédéric Dard, une œuvre théâtrale assez importante, notamment avec son complice et ami Robert Hossein. Et puis, San Antonio a aussi produit quelques films, notamment La Vieille qui marchait dans la mer avec Jeanne Moreau. On trouve d'ailleurs aussi, ça c'est amusant, le dictionnaire amoureux le précise, une publicité pour le Camembert Président dans laquelle jouait San Antonio. Frédéric Dard est né en 1921 à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Il est mort le 6 juin 2000 à Bonnefontaine, dans le canton de Fribourg, en Suisse. La famille Dard, dont les parents avaient monté une entreprise familiale, a connu d'ailleurs de très très graves difficultés financières dans les années 30, après la crise de 29, puisque tous les biens de la famille ont été saisis, notamment sous les yeux du jeune Frédéric. La famille va ensuite s'installer à Lyon. Frédéric Dard écrit son premier livre achevé avant ses 18 ans, et il va très rapidement explorer la piste du roman policier à l'anglo-saxonne avec des personnages qui s'expriment de manière argotique et cocardière. Frédéric Dard se marie en novembre 1942 avec Odette Damézin, dont il aura deux enfants, Patrice et Elisabeth. Il s'installe à Lyon et puis la notoriété va commencer à dépasser les limites de la capitale rhodanienne, influencée par le roman noir américain. Très vite, effectivement, c'est aux éditions du Fleuve Noir qu'a créé Armand de Caro, et grâce à l'appui du critique Igor Maslowski, que Frédéric Dard va prendre son envol dans le monde de la littérature, des romans policiers, des romans d'aventure et d'épouvante. La vie de couple avec Odette Damézin n'est pas très heureuse. D'ailleurs, Frédéric Dard tentera de se pendre. Il se remarie le 14 juin 1968 avec Françoise de Caro, la fille d'Armand de Caro, le fondateur des éditions Fleuve Noir. Il aura une fille, Joséphine, née en 1970. Cette Joséphine qui a épousé en 2006 Guy Carlier. Vous savez aussi qu'il y a eu un drame dans la vie de Frédéric Dard. C'est justement cette petite fille Joséphine qui sera enlevée en 1983 à l'âge de 13 ans par un homme dans leur appartement. La famille Dard versera une rançon de 2 millions de francs suisses. Le ravisseur sera d'ailleurs arrêté et condamné à 18 ans de prison en septembre 1984. Et la rançon sera récupérée, mais l'épisode de ce kidnapping a longtemps traumatisé Frédéric Dard et sa fille. En 1978, Frédéric acquiert à Bonnefontaine une ferme du XVIIIe siècle qu'il restaure, et c'est dans ce domaine de l'eau vive qu'il poursuit son œuvre en composant une centaine de romans et de nombreuses peintures, la peinture qui était sa vocation contrariée. Il faut dire aussi que dès l'âge de 4 ans, on s'est rendu compte que le jeune Frédéric Dard ne pouvait pas bouger son bras gauche, il avait un bras paralysé. Mais ça ne l'a pas empêché d'écrire et d'être à l'origine d'une langue déconcertante, libre et joyeuse. En tout cas, il est un des auteurs les plus lus du XXe siècle. Voici ce que Éric Bouillet écrit de Frédéric Dard. Frédéric Dard, un homme de gentillesse et de bonté, un clown désespéré aussi, répétiteur de chagrin pour lui-même, mais professeur de bonheur et de liberté pour les autres. En 2002, deux ans après la disparition de Frédéric Dard, son fils Patrice, écrivain confirmé, va prolonger l'œuvre de son père et va écrire la suite avec talent, qui va très vite trouver ses lecteurs, et c'est ainsi qu'en 2002 naissent les nouvelles aventures de San Antonio. Quelqu'un qui l'a bien connu aussi, c'est Philippe Bouvard. Je vous lis ce que Philippe Bouvard disait de Frédéric Dard. « Jamais je n'ai rencontré tant de génie et de simplicité réunis. Jamais je n'ai vu coexister gaieté plus franche et désespoir plus complet. Jamais je n'ai observé en une même personne si peu d'illusions sur l'homme et tant de bonté pour lui. » Je vous ai parlé de la langue que Frédéric Dard avait inventée, une langue qui n'oublie jamais l'argot, qui est riche de milliers de néologismes et d'inventions. Il signe le style de son auteur qui est unique dans l'histoire de la littérature. Concernant les titres de certains des romans de Frédéric Dard, Éric Bouillet, dans le Dictionnaire amoureux de San Antonio, les répertorie en les commentant. Mais moi, je vais me contenter de vous rappeler quelques-uns de ces titres que peut-être vous avez lus ou que vous avez cachés dans certains tiroirs de commode de votre maison. En avant la moujique. Après vous, s'il en reste, monsieur le président. Le hareng perd ses plumes. À prendre ou à lécher. Le standinge. Le casse de l'oncle Tom. Vole au-dessus d'un lit de cocu. Ma cavale au Canada. Le loup habillé en grand-mère. Ceci est bien une pipe. Sucette boulevard. Buffalo bide. Fais-moi des choses. Si ma tante en avait. Tout le plaisir est pour moi. Meurs pas, on a du monde. Du sable dans la vaseline. J'ai peur des mouches. T'assieds pas sur le compte-gouttes. J'ai bien l'honneur de vous buter. Maman, la dame fait rien qu'à me faire des choses. T'es beau, tu sais. Les eunuques ne sont jamais chauves. Sauce tomate sur canapé. Tirement d'œufs, c'est pour offrir. Remets ton slip, gondolier. De l'antigel dans le calbut. Fais gaffe à tes os. Princesse patte en l'air. Bon baiser ou tu sais. Turlute gratos les jours fériés. Les huîtres me font bâiller. Mais on pourrait mentionner mes hommages à la donzelle, Alice au pays des merguez, l'année de la moule, tarte au poil sur commande, plein les moustaches et bacchanal chez la mère Tadzi. Bref, il y a toujours une véritable licence chez Frédéric Dard. Alors, quelques petites citations comme ça. Il ne suffit pas d'avoir des actions en bourse, encore faut-il avoir des bourses en actions. Et Jérôme Garcin dit de Frédéric Dard et de son œuvre qu'elle déroule, je cite, un monde à la fois hilarant et tragique, bestial et cérébral, panthéiste et désespéré, qui sent le vin et l'eau bénite, où passe l'amour fou de la vie et la peur folle de la mort. Frédéric Dard et l'argent. Je vous ai dit que le jeune Frédéric avait été particulièrement bouleversé par la saisie dont ses parents avaient été victimes sur un trottoir. Voici ce que Éric Bouillet écrit en parlant de l'argent que Frédéric Dard a gagné, des sommes absolument gigantesques. En attendant, l'ancien sans le sou affiche des goûts de parvenu. Il roule en Ferrari ou en Rolls, se fait construire un chalet de nabab à Gstaad, passe ses vacances à Marbella, possède des Magritte et des Dali, des Ikem et des Pétrus, des collections d'un peu de tout qu'il ne poursuit pas. Il dort dans les meilleurs hôtels du monde, à sa table chez les grands chefs étoilés et se drogue à l'artiche pour calmer son blues. Je n'ai jamais cessé de douter de ce que je faisais. La seule chose qui m'ait rassuré, ça a l'air ridicule, c'est le pognon. Pour un gosse de pauvre, d'archi-pauvre, qui dormait dans la cuisine, l'argent a été la seule preuve tangible de la réussite. Son pote Garcin l'a bien cerné. Lui qui plaçait au-dessus de tout le gratin de macaroni et la grumeleuse purée de pommes de terre, jonglait maladroitement, de son seul bras valide, le droit, avec les grains de caviar chez la serre. Il n'en tirait aucune vanité, même pas le plaisir de la revanche prise sur le destin, mais plutôt une occasion supplémentaire de ricaner ou de noyer son spleen. Et puis concernant aussi le rapport à l'argent, voici ce qu'écrit aussi Éric Bouillet dans le Dictionnaire amoureux de San Antonio. Comme beaucoup d'anciens pauvres, Frédéric Dard se trimballe avec des bifetons plein les poches et arrose alentour famille, proches et souvent inconnus. Ça tombe bien, il a besoin de se rendre utile et se sent un tempérament de chef de tribu que ne lui dispute pas son père, trop content d'abandonner son job à l'usine le jour où son fils lui annonce qu'il gagne assez d'argent pour le faire vivre. Aussitôt dit, il lui verse un premier mois au printemps 1955, puis le salarie pendant près de 30 ans. Pour l'encourager à écrire, Frédéric lui édite même ses premiers essais de romancier à compte d'auteur. À sa sœur adorée, il achète le magasin de farces et attrapes où travaille sa mère. Tous les mois, j'ai mes pensions. Tous ceux qui roulent un peu sur la jante, je leur file du blé, dit-il. Robert Hossein profite largement des largesses de son pote, lui avouant un jour, un peu cyniquement, « Tu sais, Fredo, tout l'argent que tu m'as prêté, je l'ai rendu à d'autres. » On sait aussi que Frédéric Dard aida Albert Cohen jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, retiré à sa ferme fribourgeoise de l'Eau-Vive, il n'aura de cesse de financer de nombreuses sociétés de la région, le club de football et le chœur symphonique de Fribourg, la construction d'une cafétéria à l'université de la ville et une fontaine publique dans le village de Bonnefontaine, sur laquelle il fait inscrire « La seule vraie richesse, c'est l'eau ». Quelques petites citations encore de Frédéric Dard. « Il ne faut pas être méchant, jamais, c'est du temps perdu ». Il écrit « Je suis un piège à con ». Et il écrit encore « Personne ne peut me nuire plus que moi-même ». Il y a tellement de rebondissements dans ce livre qu'on le dirait en caoutchouc. Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres. Le dictionnaire amoureux de San Antonio d'Éric Bouillet, c'est aux éditions Plomb. Notre émission Wagon Livre touche bientôt à sa fin. Vous avez, j'espère, eu le temps de noter les références des ouvrages dont il a été question. Allez, je les rappelle très rapidement parce qu'on n'en est pas à 30 secondes. Le dictionnaire amoureux de Tintin de Albert Algou. Le dictionnaire amoureux de San Antonio de Éric Bouillet. Le dictionnaire amoureux de Saint-Pétersbourg de Vladimir Fedorovski et le dictionnaire amoureux de la montagne signé Frédéric Thirier. Ces quatre dictionnaires amoureux sont disponibles en librairie aux éditions Plomb et puis dans les mois à venir de cette nouvelle année 2017. Les éditions Plomb annoncent un dictionnaire amoureux de la Suisse qui sera signé de Metin Arditi. On nous signale aussi un dictionnaire amoureux de la République sous la plume de Jean-Louis Debré et Jean-Michel Villemotte nous procurera un dictionnaire amoureux de l'architecture. La semaine prochaine, mercredi 18 janvier à 21h, toujours à bord de Wagon Livre sur Radion, je recevrai Marie-Thérèse Mutin, qui signe aux éditions Mutine une autobiographie politique qui a pour titre « Une lente agonie ». Marie-Thérèse Mutin est née en 1939 en Côte d'Or. Elle a adhéré au Parti Socialiste en 1971 et de 1977 à 1990, elle est responsable de la Fédération de Côte d'Or du PS. De 1979 à 1998, elle a participé à la direction nationale. Elle a donc bien connu à un poste clé la montée en puissance de son parti, puis dès 1982, son érosion jusqu'à la déliquescence actuelle. Alors ce sera une émission tout à fait intéressante quelques jours avant le premier tour de la primaire socialiste qui aura lieu le dimanche 22 janvier prochain, puisque Marie-Thérèse Mutin nous expliquera ses enthousiasmes politiques, elle qui a cru au slogan du PS qui en 1981 était de changer la vie. En 1974, alors qu'elle est première secrétaire de Côte d'Or du PS, elle accueille le candidat de la gauche socialiste à l'aéroport de Longwy. Elle a côtoyé un très grand nombre de socialistes de la région Bourgogne, qui s'appelait et qui s'appelle toujours, hein, François Patria, François Rebsamen. Elle a bien connu Pierre Joxe, Michel Rocard, Pierre Mauroy, Jean Auroux, Laurent Fabius, Jospin et même François Hollande qui la recevra dans son bureau alors que François Hollande était le premier secrétaire du Parti Socialiste. Elle reviendra sur l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81, la réélection de Mitterrand le 8 mai 1988. Bref, c'est un beau parcours politique dont il sera question avec notre invité mercredi prochain 18 janvier et il y aura une deuxième émission également avec Marie-Thérèse Mutin, ce sera le 25 janvier autour de son autobiographie politique « Une lente agonie » disponible aux éditions Mutine. Merci de nous avoir suivis, très bonne fin de soirée à l'écoute de Radion. Rendez-vous la semaine prochaine, merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir.